Amadou Oumfa à la présentation. Merci de rester sur VOA.
Bienvenue sur votre émission hebdomadaire Sporama sur VOA Afrique. Une vingtaine de minutes pour passer au pain fin, l'actu du sport de la semaine. Élisée Rumpati en direct avec vous. Et pour m'accompagner, Lawal Dim Kosuo comme d'habitude dans ce studio. Bonsoir Lawal.
Élisée, bonsoir.
On prend la direction de Columbus dans l'Ohio où se trouve Amédine Sy. Bonsoir Amédine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
En direct de Casablanca au Maroc, Amine Birouk. Bonsoir Amine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous.
Et puis Valdo Simbo Nyamba Nyamba du côté de Kinshasa en RDC. Valdo, bonsoir.
Bonsoir Élisée et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Ce soir, nous allons parler de l'élection du président de la CAF. Le programme de tous les candidats enfin connu pendant que le président de la FIFA, Gianni Infantino, multiplie les déplacements en Afrique ces derniers jours. Et puis, on connaît le dernier carré de la CAN des moins de 20 ans qui se dispute actuellement en Mauritanie. Bienvenue sur Sporama et bonsoir à tous. La commission des interclubs de la CAF a mis à jour les rencontres de la première et deuxième journée de la phase du groupe de la Ligue des Champions à Dar es Salaam en Tanzanie. Le Mamelodi Sundowns n'a fait qu'une bouchée des Algériens du CR Belouizdad pendant que l'autre club sud-africain, les Kaizer Chiefs, se faisait corriger à Ouagadougou au Burkina par le Wydad de Casablanca 4-0. On prend la direction du Maroc. Alors, Amine Birouk, l'éternel problème d'organisation à la CAF n'a fini point.
On parle d'éternels problèmes d'organisation et surtout de flottement au sein de la Confédération africaine de football. Rappelez-vous, dans cette affaire entre le Wydad de Casablanca et l'équipe de Kaizer Chiefs, il y a eu beaucoup de soubresauts. On parle bien évidemment de la décision des autorités marocaines d'interdire l'accès à la délégation sud-africaine, des ultimatums qui ont été adressés au Maroc et à l'Algérie, puisque en même temps l'équipe de Belouizdad devait affronter les Mamelodi Sundowns. Et à chaque fois, c'est à charge pour le pays qui reçoit et ou la fédération du pays qui reçoit de trouver un terrain neutre. Alors qu'en Europe, c'est l'UEFA qui se charge de ce genre de besogne, cas des rencontres entre Liverpool et Leipzig, mais également de la confrontation entre l'Atlético de Madrid et Chelsea. Du coup, on se retrouve avec une CADF plus préoccupée par le processus électoral, avec un vide administratif, un vide au niveau de la gouvernance et aujourd'hui beaucoup d'interrogations sur l'éternel désorganisation de la CAF.
Amédine Sy, n'y a-t-il pas du deux poids deux mesures quand on se rappelle que des clubs ont été disqualifiés à cause de cette affaire de coronavirus, notamment les Mauritaniens du FC Ouagadougou au Ghana?
Tout à fait, Élisée, il y a bel et bien deux poids deux mesures, car un club comme le FC Ouagadougou a été disqualifié lors des matchs préliminaires du premier tour à cause des problèmes liés au coronavirus. C'est le cas aussi de l'équipe guinéenne d'Ashanti Golden Boy, qui n'avait pas réussi à avoir le nombre minimum de jours fixé par la CAF pour jouer son match à cause des cas de coronavirus. Mais au même moment, on a vu des clubs qui ont eu ces mêmes problèmes et qui ont réussi à jouer parce que leurs matchs ont été reprogrammés. Je ne vois pas pourquoi on donne une seconde chance à des clubs et non pas à d'autres. C'est anormal. Il faut dire que le contexte est extrêmement difficile. Je l'ai dit et je le répète, la CAF doit être indulgente envers les clubs car nous sommes en Afrique, un continent qui manque de moyens. Donc forcément, beaucoup de clubs auront des problèmes pour se déplacer, mais également des fois pour jouer car il y a des cas de corona à la dernière minute. Donc pour moi, Élisée, la CAF doit être indigène, mais elle doit être aussi juste envers tous les clubs. Élisée.
Valdo, on risque de voir des matchs reprogrammés lors des 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN 2022. Une journée pour autant décisive.
Élisée, je crains plutôt que ce soit les matchs de la 5e et 6e journée de la Ligue des Champions de la CAF qui soient reprogrammés à des dates qui devraient programmer, bien sûr, la Confédération africaine de football, puisque les deux dernières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2022 vont enchaîner du 24 au 30 mars 2021, alors que la 4e journée de la phase des groupes de la Ligue des Champions de la CAF est programmée pour les 16 mars, ce qui, naturellement, doit doit laisser place au rassemblement au niveau des sélections, puisque le 24 mars, c'est l'avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN 2022 qui devra prendre le relais, à moins que la Confédération africaine de football en décide autrement. Élisée.
Lawal, pour éviter tout problème et avoir une bonne organisation, il faut savoir anticiper.
Oui, Élisée, il faut savoir anticiper ce qu'on n'a véritablement pas à l'idée au niveau de la CAF, parce que on sait qu'il y a une crise sanitaire, mais on n'a pas pris les mesures pour que, en cas de pépin, qu'on puisse véritablement avoir un plan B. Il n'y a rien qui soit prévu dans ce sens, et on attend de voir un peu comment vont se jouer les journées, les prochaines journées des éliminatoires de la CAN.
On enchaîne avec la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans en Mauritanie. Plus que deux matchs et on connaîtra le successeur du Mali. Quatre équipes, à savoir le Ghana, l'Ouganda, la Tunisie et la Gambie, présentes dans le dernier carré, s'affrontent pour une place en finale. Amédine, une finale que va assister Maître Augustin Senghor.
Oui, Élisée, la CAN U20 touche à sa fin avec les deux finales qui constituent l'avant-dernière étape avant le bouquet final qui sera sans aucun doute une fête du football africain. Un rendez-vous que le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, candidat à la présidence de la CAF, ne veut pas rater. En effet, le patron du foot sénégalais va effectuer le déplacement sur la Mauritanie pour assister à cette finale de la Coupe d'Afrique des U20, Maître Augustin Senghor, qui est présentement en campagne électorale, tentera de faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire Élisée, assister non seulement à la finale, mais essayer aussi de rencontrer quelques responsables du football qui ont effectué le déplacement sur la Mauritanie pour les convaincre de voter pour lui. Il va certainement commencer par l'autre candidat qui n'est autre que le président de la fédération, Mauritanien de football, Yahya. Donc Augustin va certainement le rencontrer pour le convaincre de retirer sa candidature et de voter pour lui. En tout cas, nous allons voir tout cela ainsi, comme disent les Anglais, Élisée.
Lawal, grosse déception pour le Cameroun qui a pourtant réalisé une grande performance lors du premier tour. Trois matchs.
Élisée, c'est une désillusion totale pour les Camerounais. Trois matchs, trois belles victoires. On pensait que les Camerounais allaient rester dans la même lancée, mais ils ont été stoppés net. Et ceci n'augure pas d'avenir meilleur pour l'équipe senior. Parce qu'on se rappelle le CHAN au Cameroun. Les Camerounais ont été humiliés en demi-finale par le Maroc. Ils ont été battus également dans la petite finale. Et aujourd'hui, au niveau de la CAN des moins de 20 ans, le Cameroun n'arrive pas à s'imposer non plus.
Surtout quand il s'agit des matchs à élimination directe.
Direct, le Cameroun a quelques petits soucis. Et on espère que les seniors vont s'inspirer, tirer leçon de ce que les locaux ont pu réaliser, de ce que les juniors ont fait pour ne
les
pas...
Les cadets aussi sont attendus du côté du Maroc.
Ils sont attendus. On espère que tout ceci sera une sorte de répétition générale pour les Camerounais, afin que, même si les cadets, ça marche pas, que les seniors puissent à domicile laver l'honneur du peuple camerounais à travers la victoire finale au soir donc de cette CAN qui se joue justement au Cameroun.
Déception aussi côté Maroc, Amine Birouk. Les Lionceaux de l'Atlas n'atteindront pas leurs objectifs.
Déception pour les Lionceaux de l'Atlas qui avaient maîtrisé pendant leur phase de groupe. On se souvient de leur victoire face à la Gambie et à la Tanzanie, de leur match nul où ils avaient dominé face au Ghana. Et du coup, leurs deux adversaires au sein de la phase de groupe se trouvent en demi-finale, alors que on, par excès de prudence, était obligé d'aller à la sempiternelle série des tirs au but face à la Tunisie. 1-0 dans des conditions assez bizarres, puisqu'il y avait énormément de vent à Ouagadougou. Et puis, on peut reprocher à l'équipe du Maroc son attentisme. Un arbitrage tatillon qui a cassé énormément de jeux lors d'une rencontre où l'enjeu a primé. Et du coup, c'est la série de tirs au but qui a souri aux Tunisiens, qui l'emporte par 4-1. Beaucoup de déceptions, mais visiblement également beaucoup de promesses, puisque cette génération va disputer les éliminatoires des JO de 2024 à Paris.
Valdo, la merveilleuse aventure s'arrête en quart de finale pour la Centrafrique.
Merveilleuse aventure. Vous l'avez si bien dit, Élisée, cette sélection centrafricaine n'était pas attendue à ces niveaux-là. Pour une première participation, ça reste une très grosse performance. Atteindre les quarts de finale, le souhait que ces parcours soient un élément moteur pour les jeunes footballeurs de ces pays et bien entendu les autres sélections des fauves des Bazoubongi. C'est une génération qui a écrit l'histoire du football centrafricain en lettres d'or, s'arrêter en quart de finale, tomber face à la Namibie, quoique battu 3-0, cette jeune sélection a mieux à apprendre de sa participation qu'à regretter de son élimination qui reste un fait normal lorsqu'on participe à une compétition et lorsqu'on n'arrive pas jusqu'au bout, c'est soit on gagne, soit on est éliminé.
Cette CAN qui a eu lieu en Mauritanie avait connu la présence du président de la FIFA, Gianni Infantino, qui a inauguré officiellement le stade de Ouagadougou où se sont déroulées certaines rencontres de la compétition. Après la Mauritanie, le patron du foot mondial a inauguré d'autres infrastructures financées par la FIFA. Pratiquement une tournée sur le continent entre développement et politique à l'approche de l'élection du nouveau président de la CAF, ce 12 mois après avoir évoqué des pistes de réforme pour le football africain. Alors, Valdo, il était à Kinshasa pour parler avec le président Tshisekedi d'un partenariat signé entre la FIFA et l'Union africaine.
Élisée, l'Union africaine et la FIFA se mettent ensemble pour booster le football au niveau des écoles avec la mise en place d'un tournoi interscolaire. L'essentiel à retenir des échanges entre les présidents de l'Union africaine, président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, et les présidents de la FIFA, Gianni Infantino, le développement intégral de l'homme à travers le football sur le continent étant la préoccupation majeure. Les deux institutions se sont convenues de faire bloc pour promouvoir les valeurs qui véhiculent le football et ce, au niveau des écoles. D'autres problèmes ont également été relevés, a fait savoir Gianni Infantino, notamment ceux liés aux infrastructures et la bonne gouvernance. Prévu pour 2 jours, le président de la FIFA est vite réparti le jour même qu'il est arrivé en RDC après un passage éclair au siège de la Fédération Congolaise de Football Association.
Ahmedine, le Suisse s'est rendu aussi au Sénégal pour y rencontrer le président Macky Sall.
Oui, Élisée, le boss du football mondial, Gianni Infantino, a effectué un court séjour de 4 heures de temps au pays des Lions de la Teranga. Durant son séjour, le boss du football mondial a rencontré le président de la République, M. Macky Sall. Ils ont échangé sur le rôle que doit jouer le Sénégal dans le développement de la discipline. Gianni Infantino a aussi rencontré les membres de la communauté du football sénégalais. Il faut dire que cette visite entrait dans le cadre de sa tournée africaine, mais ce court séjour a été apprécié différemment, Élisée, par les observateurs du football sénégalais, Élisée.
Amine, Gianni ne s'est plus rendu en Algérie comme l'a confirmé la FAF, mais était au Maroc.
Il était au Maroc où il a passé 36 heures, une visite de travail où il a été reçu par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération marocain. Il a eu plusieurs entretiens avec les responsables de la jeunesse et des sports. Il a visité le centre Mohamed VI de football, qui est un des joyaux du football marocain. Et n'a pas tari d'éloges sur les infrastructures du royaume chérifien, mais également sur sa capacité à mettre en place un championnat professionnel au niveau féminin. Autant dire que c'est une visite fructueuse de Gianni Infantino, qui a sillonné un peu l'Afrique et qui s'est arrêté au Maroc, où il a eu certainement beaucoup de tractations de coulisses à propos du processus électoral électif à la CAF.
Lawal, il n'était pas non plus en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'il soit dans le pays des 3 autres candidats, mais pas celui de Jacques Hanouma?
Non, c'est peut-être un hasard de calendrier, et parce que selon les informations, Hanouma et Infantino se sont rencontrés déjà au Maroc pour évoquer un certain nombre de questions. C'est peut-être le calendrier du président Alassane Dramane Ouattara qui faisait peut-être pas, permettait pas cette rencontre, ou peut-être une petite incompréhension bureaucratique entre les différents protocoles. Et on peut également penser que Le président a boudé cette visite, le président de la Côte d'Ivoire a boudé cette visite parce qu'il a nettement l'impression, c'est ce que tout le monde dit d'ailleurs, que Gianni Infantino serait en train de faire campagne pour un autre candidat. Alors pourquoi le recevoir si tant est qu'il ne soutient pas mon candidat?
Voilà.
C'est peut-être ça aussi, mais l'un dans l'autre, je ne vais pas prêter des intentions au président de la FIFA, mais c'est un couac dans son programme, parce qu'il avait forcément, s'était entendu avec Anouma pour le programme de la Côte d'Ivoire. Et si ça n'a pas pris, c'est qu'il y a un petit grain de sable qui a bloqué le mécanisme de la machine.
Amine, cette tournée cache des choses, surtout quand on voit qu'il était 4 fois en Mauritanie, après à Johannesburg et au Cap, donc 2 fois en Afrique du Sud.
Une tournée qui cache une campagne électorale déguisée pour le candidat ou les candidats préférés du président de la FIFA. On l'a vu en Mauritanie, on l'a vu en Afrique du Sud. Il a également été du côté de Kinshasa et de Brazzaville. Il a eu des entretiens avec des chefs d'État comme à Kigali et au Congo démocratique. Autant dire que c'est l'opération grande manœuvre, puisqu'on l'a vu également au Sénégal où il a été reçu par le président Macky Sall. Gianni Infantino mouille le maillot. Au profit des dirigeants qu'il a choisis et adoubés, on parle de Patrick Motsepe, dans un second lieu, Ahmed Yahia, le Mauritanien.
Justement, par rapport à cette affaire d'influence réelle ou supposée de la FIFA dans cette élection, certains candidats se sont prononcés en rappelant que cette décision appartient aux Africains et ne croient pas du tout en l'existence d'un candidat poussé par la FIFA. On écoute respectivement Maître Augustin Senghor et Ahmed Yahia.
Gianni Infantino est venu à Dakar, a rencontré le chef de l'État Macky Sall. On a eu un échange en tête à tête pendant 2 heures de temps. Et ce qui en est ressorti, c'est qu'il avait la volonté d'aller vers des élections qui permettent à l'Afrique de garder son unité. Je ne sais pas quel est le but de cette tournée. Je pense aujourd'hui que la FIFA ne vote pas. C'est aux acteurs et dirigeants du football africain de prendre leurs responsabilités face à cette situation actuelle et de prendre leur destin en main. Après qu'on soit accompagné par la FIFA, ça me paraît tout à fait naturel. Mais encore une fois, je ne me considère pas comme un candidat de la FIFA au moment où je parle, parce que jamais la FIFA ne m'a dit qu'elle ne me soutenait. Et je suppose qu'elle a dû en faire de même pour tout le monde.
Encore une fois, c'est un faux débat, celui de dire que la FIFA maîtrise, veut s'ingérer, etc. Personnellement, ça ne me pose pas de problème. Mais je le répète ici, je ne suis pas le candidat de la FIFA. Elle ne soutient pas ma candidature. Je suis un candidat indépendant, candidat des présidents des fédérations, du football africain, convaincu d'un projet que je veux apporter pour l'Afrique. Et demain, si je suis élu, je vais travailler main dans la main avec la FIFA, mais dans une collaboration respectueuse, gagnant-gagnant pour l'Afrique et pour le monde.
Lawal, c'est d'ailleurs après son passage en Afrique du Sud que Patrice Motsepe a rendu public son programme en 10 points pour les élections.
Oui, Élisée, c'est une pure coïncidence, va-t-on dire, hein? Mais dans le fond, il y a comme un timing parfait pour venir à la rescousse de Motsepe, parce que il n'est pas président de fédération, donc la mécanique n'est pas encore bien huilée chez lui, et il a fallu l'onction, la présence miraculeuse de Gianni Infantino pour qu'il se retrouve et qu'il proclame son programme en 10 points. Et ce qui est un peu paradoxal, c'est que dans son programme, il assure qu'il n'avait jamais l'intention de déplacer le siège de la CAF du Caire pour l'Afrique du Sud. Il avait assuré également qu'il n'avait aucune intention d'aller contre le Maroc. C'est vrai qu'il a des soutiens dans son pays avec la zone COSAFA. Voilà. Et le président du Zimbabwe a assuré que Motsepe pourrait avoir les 35 voix nécessaires. Justement, sur les 54.
Puisque c'est cette zone qui a fait élire Ahmad.
Donc, on a bien l'impression que tout est parti de quelque part et que la FIFA soutiendrait un candidat. Mais quand on regarde autour et que Ahmed Yahia dise ce qu'il a dit et que Senghor dise la même chose, On sait comment se passent les élections à la CAF. C'est pas possible.
Justement, au niveau de la presse, c'est une déception totale. D'aucuns disent on veut élire le président de la CAF. Et le président de la FIFA se fait dresser le tapis rouge par les chefs d'État africains qui reçoivent des consignes de vote. C'est vraiment dommage.
Ce serait vraiment ridicule de dire, c'est mon point de vue, que les chefs d'État africains reçoivent des consignes de vote de Gianni Infantino.
Il est venu au Bénin, mais rien n'a filtré.
Écoutez, Élisée, souvenez-vous que l'émissaire de Alassane Ouattara est venu rencontrer le président Talon, ironie du calendrier, je le dis encore, et c'est au lendemain de cette rencontre-là, avec ce qui a été dit, l'émissaire a dit clairement qu'il appelait le soutien du Bénin
pour voter
Jacques Hanouma, candidat ivoirien. Au lendemain, Gianni Infantino vient. On ne dit rien. Je trouve que c'est diplomatique, tout ce qui se fait. C'est mon point de vue. Même le programme était trop serré. Tout est resté mystérieux. Ils savent pourquoi ils l'ont fait. Parce que chaque fédération est libre d'organiser la visite du président de la FIFA. Comme elle l'entend, les Béninois ont préféré faire blackout sur tout ce qui se passe. Certainement qu'ils vont nous faire un communiqué pour qu'on puisse savoir ce qui se sont dit.
Ahmedine, a priori, le président de la Fédération sénégalaise de football a été le premier à dévoiler son programme. Un projet ambitieux et innovant.
Oui, Élisée, un programme ambitieux marqué par 4 axes prioritaires et 11 engagements. Il a dit que c'est pour réformer la Confédération africaine de football. Sachez, Élisée, que Maître Augustin Senghor compte mener une campagne. Il a même déjà entamé cette campagne, une campagne panafricaine selon lui. Concernant son programme, il a dit qu'il fera tout pour mettre en place un football africain uni, plus performant et plus attractif, car pour lui, la CAF est à un tournant décisif. Il a même rémunéré quand même quelques difficultés, axées sur 8 points aussi. Il s'agit entre autres des problèmes de gouvernance, de l'instabilité au niveau de l'organisation administrative et la précarité de la situation financière, etc. Élisée. Donc c'est un programme ambitieux. Maintenant, il faudra convaincre les présidents de fédération à voter pour lui pour qu'il puisse diriger la Confédération africaine de football. Élisée.
Valdo, à Abidjan, l'Ivoirien Jacques Hanouma, qui vise un seul mandat, promet entre autres mouiller le maillot afin de rebâtir la confiance perdue au niveau de la CAF. C'est fort.
C'est trop fort, oui, Élisée, mais rétablir cette confiance perdue auprès de qui et pourquoi? Bon, nous savons tous que chaque candidat en cette période a le droit de trouver des mots pour non seulement se faire entendre, mais surtout séduire également les électeurs. Il annonce également ses bonnes intentions, un mandat c'est tout, oui, parce que nous savons tous que la vie est dynamique. Je vois mal, une fois élu et qu'il a arrivé à rétablir cette confiance et qu'il lui était demandé de briguer un nouveau mandat, et qu'il dira non, je ne pense pas. Bref, Élisée, les jours sont comptés et les candidats doivent sortir leurs cartes pour séduire, convaincre et espérer atteindre l'objectif final, la présidence de la Confédération africaine de football.
Amine, le Mauritanien Ahmed Yahia s'est prêté au même exercice à la veille du coup d'envoi de la CAN des moins de 20 ans. Il propose cet engagement pour réorganiser et moderniser le football africain.
Et Ahmed Ould Yahia bat campagne également. On l'a vu lors de la présentation de son programme électoral. Il se propose de moderniser le football africain, de pouvoir le mettre en termes de gouvernance aux normes, et on voit d'une façon ou d'une autre l'influence de Gianni Infantino. Est-ce qu'il va par ailleurs adopter les grandes lignes de la politique du président de la FIFA à l'encontre du football africain, à savoir proposer une CAN tous les 4 ans, faire en sorte de moderniser l'administration, essayer de créer une ligue fermée des clubs? Ce sont des propositions de Gianni Infantino qui n'ont pas été reprises directement par Ahmed Yahia, mais elles sont sous-jacentes dans certaines de ses propositions. On sait par ailleurs qu'Ahmed Yahia rencontrera au Maroc dans les prochaines heures le président de la Fédération sénégalaise, Augustin Senghor, par ailleurs candidat, mais également Jacques Hanouma. Est-ce qu'on se dirige vers un désistement mutuel après le premier tour de cette élection qui aura lieu le 12 mars prochain à Rabat? Voilà une interrogation qui mérite d'être posée, d'autant plus que Ahmed Yahia est un peu le cheval de Troie du président de la FIFA, Gianni Infantino.
Inforama qui s'achève. Merci de l'avoir suivi. Présentation, Élisée Rumpati. Rendez-vous sur nos sites internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité sportive 24h sur 24. À lundi prochain. Au revoir.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com.